tous. Emmanuel Macron assure les sinistrés des Alpes-Maritimes du soutien de la nation. Le président promet un accompagnement dans l'urgence, mais aussi dans la durée, le temps de la reconstruction. Reportage de Julie-Marie Lecomte à Tende. L'exécutif a-t-il agi en coulisses pour favoriser la cession de Suez à Veolia, à laquelle il est officiellement opposé? C'est ce que laisse entendre Mediapart. L'intersyndicale de Suez dénonce un scandale d'État, l'opposition s'échauffe, le gouvernement dément. Après 5 ans et demi de procès, la justice grecque qualifie le parti néo-nazi Aube Dorée d'organisation criminelle. Un verdict historique salué par la foule rassemblée près du tribunal. Nous irons à Athènes. Nous suivrons également les manœuvres diplomatiques autour du Haut-Karabakh. Les hostilités ont poussé la moitié de la population de l'enclave à fuir. La France accuse la Turquie d'être impliquée militairement dans le conflit. On sera là, promet Emmanuel Macron. Tende, Breil-sur-Roya, Saint-Martin-Vésubie, le chef de l'État parcourt l'arrière-pays niçois dévasté et endeuillé. Les pluies torrentielles et les crues brutales qu'elles ont engendrées ont fait officiellement 4 morts, mais il y a également 8 disparus et l'on est toujours sans nouvelles de 13 autres personnes. Dans les zones sinistrées, le président n'a pu que constater les maisons détruites, les routes impraticables, les ponts effondrés, les réseaux d'eau potable anéantis. Et il promet un soutien à la mesure de la catastrophe. Le reportage de Julie-Marie Lecomte.
De Tende, Emmanuel Macron est reparti sous les applaudissements des gens du village. Il devait le traverser pour aller jusqu'au fond, là où la route a été emportée. Le président de la République n'est pas allé plus loin que la place devant la mairie, percutée par la détresse des habitants.
On a évacué beaucoup de papy, mamie aussi.
Ouais, je sais.
Je craque, c'est normal. Hein. Je ne peux pas être forte tout le temps.
Non, mais là, je sers à ça.
Je sais, mais il ne faut surtout pas nous oublier.
Non,
on a eu la sensation d'être oublié pendant 48 heures.
Je sais,
et vous savez que c'est très dur. Il y a des gens qui ont tout perdu. Nous, on essaye de faire face, mais on peut pas rester solide longtemps. Il faut nous aider maintenant. Il ne faut pas nous oublier. Il faut refaire notre belle Roya et qu'on revive comme avant. Merci.
Refaire la route côté français prendra des mois. Emmanuel Macron promet le retour rapide du train.
Il y a des bonnes nouvelles, donc très vite, là on a pris les choses pour que vous puissiez reconstruire très vite, que nous puissions tous ensemble, parce que c'est un investissement de la nation, hein. On n'a pas voulu vous laisser tomber. Donc rassurez-vous, et Victor, il aura la visibilité au plus vite. On a une drôle d'année, hein. Je ne vais pas vous mentir.
Ce matin, l'arrêté de catastrophe naturelle a été signé en Conseil des ministres.
Emmanuel Macron terminera sa visite ce soir par le centre opérationnel départemental installé à la préfecture de Nice. L'État a-t-il joué double jeu lors du conseil d'administration d'Engie lundi soir? Les administrateurs du groupe énergétique ont validé la cession à Veolia de 29,9% des parts dans Suez. Or, selon les informations de Mediapart, le secrétaire général de l'Élysée, Alexis Kohler, aurait directement appelé les administrateurs CFDT d'Engie pour leur demander de ne pas participer au vote, une façon de s'assurer d'une validation de l'opération alors même que les administrateurs représentant l'État ont voté contre. Le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, a fermement démenti ce matin, mais il n'a pas convaincu l'intersyndicale de Suez qui réclame l'annulation de la délibération du conseil d'administration d'Engie. Écoutez Carole Prégermain, secrétaire du comité de groupe Force ouvrière chez Suez.
Vous imaginez bien que si M. Kohler a effectivement, et ça c'est une enquête parlementaire qui devrait le démontrer, mais si effectivement ça s'est passé comme ça, nous sommes en droit de penser que toute l'opération a pu être pilotée à partir de M. Kohler ou d'une entente Frérot, Kohler, Clamadieu, j'en passe. Il faut une enquête parlementaire à minima qui fasse la lumière sur ces actions. Ou peut-être des suites judiciaires, hein, c'est quelque chose qui, je pense, n'est pas exclu. Mais en tout cas, nous avons entamé et obtenu de nombreux contacts auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat. Donc nous continuons nos entretiens et les parlementaires semblent de plus en plus conscients du fait qu'il faut se donner réellement du temps et non pas que ce soit de l'affichage.
Carole Prégermain de FO répondait à Anne-Laure Jumel. L'opposition s'empare aussi de ce sujet. Jean-Luc Mélenchon dit vouloir la vérité et la punition des comploteurs. Il annonce sur Twitter que les députés La France Insoumise vont créer leur propre commission d'enquête et de suivi sur cette affaire. Au Sénat, Gérard Larcher, tout juste réélu président, a proclamé hier les noms des 8 vice-présidents de la Haute Assemblée et les effectifs des 8 groupes politiques ont aussi été publiés avec une arrivée remarquée, celle d'un nouveau groupe écologiste. Il compte 12 sénatrices et sénateurs et quels sont ses objectifs? Réponse avec ce reportage de Sophie Delpont.
À la tête du nouveau groupe écologiste, c'est Guillaume Gontard, sénateur de l'Isère, non encarté, qui a été élu président.
Pour moi, être président d'un groupe, c'est déjà être un animateur. un facilitateur et permettre à ce que tout le monde trouve sa place. Et puis sur le moyen et le long terme, bah, c'est les objectifs, la stratégie qu'on va mettre en place pour développer ce que l'on souhaite sur une écologie sociale, solidaire et ce message-là qu'on souhaite faire passer au Sénat. Puis moi je trouve qu'on a une période qui va s'ouvrir avec des débats importants, des échéances importantes avec les départementales, les régionales, les présidentielles qui ne sont pas les moindres. Et je pense qu'on a un gros travail pour justement encore plus au Sénat, la Chambre des territoires, bah, distiller cette parole de l'écologie, de proximité, parce que c'est là où on peut faire cette transition écologique, c'est en lien avec les territoires.
Esther Benbassa, sénatrice Europe Écologie Les Verts et vice-présidente de ce groupe.
Quand on a un groupe au Sénat, cela signifie qu'on peut faire beaucoup de choses, servir parfois, disons, de contre-pouvoir, mais positif. Nous irons jusqu'au bout, j'espère, des propositions de la Convention citoyenne pour le climat dans le spectre social. Vous savez, l'écologie politique, ce n'est pas seulement l'environnement, le respect de la faune et de la flore, la lutte contre le réchauffement climatique, les mobilités douces, mais c'est aussi l'immigration, c'est aussi les droits humains, c'est aussi les droits individuels. J'espère qu'on sera, je dis pas unis, mais cohérent.
Cohérent pour pouvoir peser le plus possible, souligne Sophie Taillé-Polian, sénatrice du mouvement Génération, venue du groupe socialiste.
On a, quand on a un groupe, des niches pour faire des propositions de loi. On a aussi capacité à provoquer des commissions d'enquête. Et on a vu ces dernières années, dans notre démocratie tellement présidentialisée où le Parlement a de moins en moins d'importance, que ce type de commission est extrêmement importante. On l'a vu ici au Sénat avec la commission Benalla. Donc un groupe, c'est une capacité non seulement de prendre la parole sur tous les sujets, mais aussi d'apporter des sujets au débat. C'est une aventure collective nouvelle qui est porteuse d'avenir. Je crois qu'il n'y aura pas de refondation de la gauche sans vraiment que l'écologie y soit au cœur, la matrice principale.
André Gattolin, sénateur des Hauts-de-Seine, membre du précédent groupe écologiste, avant de rejoindre celui de La République En Marche, a voulu à sa manière envoyer un message de soutien au nouveau président du groupe écologiste lors du vote pour l'élection du président du Sénat.
J'ai apporté ma voix à Guillaume Gontard, qui était le candidat écolo, ce qui fait qu'ils ont eu 13 voix au lieu d'avoir 12. Je me suis dit, c'est l'occasion de dire que moi, en tous les cas, même si j'appartiens à la majorité présidentielle, je ne suis pas devenu hostile à l'écologie, loin s'en faut.
Au Sénat, désormais, trois groupes utilisent dans leur nom le qualificatif écologiste.
Sophie Delpont, un peu plus de 1400 personnes touchées par le Covid-19 sont actuellement hospitalisées en réanimation et en Île-de-France, 40% des services de réanimation sont maintenant occupés par des patients Covid. L'épidémie poursuit sa remontée. Selon Santé publique France, le milieu scolaire et universitaire représente un tiers des clusters en cours d'investigation. Les soirées étudiantes ont été pointé du doigt, mais il est souvent difficile de respecter les règles de distanciation dans des établissements bondés, même si le port du masque est obligatoire. Depuis hier, les amphithéâtres et les salles de classe des universités ne doivent être qu'à moitié remplies en zone d'alerte renforcée et maximale. Jauge limitée et cours à distance, les facs réussissent-elles à s'adapter à Kim Kasmi ?
Eh bien, elles y arrivent tant bien que mal, mais pas forcément au même rythme, surtout quand le protocole sanitaire évolue au dernier moment. C'est ainsi que l'université Sorbonne Paris-Nord n'a pas eu d'autre choix que de fermer ses portes pendant 48 heures, car pour passer au système hybride avec 50% de cours en présentiel et l'autre moitié en distanciel, il faut des moyens financiers et techniques très importants, une tâche encore plus compliquée dans les filières en tension comme STAPS et droit où les amphis sont déjà d'ordinaire très bondés. La priorité sera donc donnée ici aux étudiants qui n'ont pas les moyens de travailler chez eux, ce qui représente 20% des effectifs, comme l'explique Olivier Houdard, le vice-président de l'université en charge des questions de formation.
Nous n'avons pas des locaux complètement équipés par des réseaux, que ce soit du Wi-Fi ou en réseau filaire, qui permettent de faire des systèmes enseignement de type hybride. Donc la consigne que nous avons donnée, c'est effectivement de permettre aux étudiants qui sont empêchés de venir en priorité. Puis après, on complète jusqu'à obtenir une jauge de 50%. Parce qu'on a bien conscience, et en particulier pour les étudiants néo-entrants, c'est-à-dire les jeunes étudiants de L1 qui n'ont pas eu de lycée et de collège, il faut absolument que nous puissions les accueillir.
D'autres facultés comme Sorbonne Nouvelle ont préféré anticiper la jauge à 50% dès la rentrée en donnant la priorité aux travaux dirigés en présentiel avec des cours magistraux en distanciel. Jalil Jean-Marc Daclia, le président de l'université.
On a mis en place une alternance entre semaine paire et semaine impaire. Et puis, sachant que les cours magistraux sont quasi intégralement à distance, avec des moments de regroupement, des moments où les étudiants peuvent rencontrer leurs enseignants et échanger directement avec eux.
Avec ces investissements dans le numérique, dont une partie d'entre eux était déjà prévue avant même la crise sanitaire, l'université espère aussi attirer des étudiants internationaux.
Séparés par la pandémie, les couples binationaux alertent sur leur sort depuis le début de l'été. Ces couples, ni mariés ni pacsés, se sont retrouvés séparés du fait de la fermeture des frontières liées au coronavirus. Le secrétaire d'État au tourisme avait promis d'accélérer la procédure et Jean-Baptiste Lemoine s'est réjoui ce matin, annonçant avoir pu donner suite à 300 demandes de laissez-passer. Bonsoir Sarah Ders.
Bonsoir.
Le problème, c'est que quelques 800 couples attendent toujours et trouvent le temps long.
Et en réalité, plus de 2500 couples vivent séparés depuis plus de 6 mois, faute de reconnaissance administrative de leur relation. Pour délivrer un laissez-passer temporaire en France, la démarche est délicate car il s'agit d'établir la réalité de cette relation à distance et sans ouvrir de brèche dans les réglementations migratoires déjà existantes. Paola Chapdelaine n'a pas vu son conjoint, étudiant américain, depuis le 24 janvier dernier. Cette étudiante est l'une des représentantes en France du collectif international Love is not Tourism et selon elle, les critères établis pour ces laissez-passer sont trop restrictifs.
Donc, parmi les personnes exclues, on retrouve notamment, premièrement, les résidents français qui ne sont pas citoyens, mais qui vivent, travaillent et paient leurs impôts en France. Deuxièmement, les conjoints étrangers qui ne sont jamais venus sur le territoire avant la crise, y compris des personnes qui auraient passé beaucoup de temps ensemble hors de France, ou qui auraient obtenu un visa valide, mais pour lesquels ce premier voyage a été annulé en raison du Covid. Et troisièmement, les enfants de conjoints étrangers. D'autre part, on manque encore de visibilité sur le caractère renouvelable du laissez-passer, alors même que cette crise peut s'avérer longue et qu'une date de réouverture des frontières est pour le moment inconnue.
La moitié des couples binationaux ne peuvent pas prétendre à se laisser passer et plus largement les enfants de conjoints étrangers non plus. Et pour rejoindre les États-Unis, Paola envisage donc d'en passer par une quatorzaine dans un pays tiers comme au Mexique ou en Croatie.
Compte tenu de l'accélération de la propagation du coronavirus, cafés et bars devront fermer à partir de demain matin à Bruxelles et dans toute la région, une mesure prévue pour un mois. Les interrogatoires ont commencé au procès de Sid Ahmed Glam. L'étudiant algérien est jugé pour une tentative d'attentat contre une église en avril 2015 à Villejuif, tentative au cours de laquelle il a tué une jeune femme, Aurélie Châtelain. Cet après-midi, Sid Ahmed Glam est revenu sur son parcours et sur ce qui s'est passé lors de ses deux voyages en Turquie avant sa tentative d'attentat, Anne Fokkenberg.
Sid Ahmed Glam s'exprime assez clairement, main droite, agrippée au micro, sur son enfance sans difficulté à Tiaré en Algérie, puis sur ses allers-retours entre la France et son pays natal au gré des activités de commerce de son père, jusqu'à l'installation définitive de la famille à Saint-Dizier en Haute-Marne en 2009. La radicalisation, raconte-t-il, elle intervient à l'été 2014 en Algérie où il revient chaque année. Un universitaire lui présente l'idéologie de l'État islamique, mais depuis 3 ans, ça va mieux, explique-t-il. Je me suis désengagé petit à petit en rentrant en détention. À partir de 2014, en effet, Sid Ahmed Glam enchaîne 2 voyages en Turquie, à chaque fois en transitant par l'Algérie. Il dit rencontrer son commanditaire, Abu Mutana, une première fois à Istanbul. C'était un émir, il m'a donné de l'argent. Sid Ahmed Glam revient à Paris, puis il retourne une deuxième fois en Turquie, à Gaziantep, à la frontière avec la Syrie, où, dit-il, ils ont commencé à me parler de commettre un acte en France et m'ont montré la vidéo d'un bombardement d'une maternité en Syrie, ce qui m'a brisé. Il apprend aussi à monter et démonter une kalachnikov et des rudiments de langage crypté. Pourquoi vous êtes retourné en Turquie? Les attentats de Charlie Hebdo venaient d'avoir lieu. Ça ne vous a pas refroidi? Demande la présidente. J'étais insensible. Mon but, c'était d'aller faire la guerre en Syrie. Un accusé qui reconnaît sa radicalisation, son allégeance à Daesh, mais qui pour l'instant n'a pas dit mot sur Aurélie Châtelain, la victime de sa tentative d'attentat. Ce que fait remarquer la partie civile. Vous savez que ce mercredi 7 octobre est un jour très spécial, Aurélie aurait eu 38 ans.
Anne Fokkenberg. Applaudissements et gaz lacrymogènes ont accueilli l'annonce de la condamnation de Nikos Michaloliakos à Athènes. Le chef et fondateur du parti néo-nazi grec Obdoré est reconnu coupable d'avoir dirigé une organisation criminelle. Des dizaines de milliers de personnes s'étaient rassemblées aux abords du tribunal réclamant que les nazis aillent en prison. Le reportage d'Angélique Coronis.
Mon fils, tu as gagné, tu l'as fait tout seul. Ils sont condamnés. Dès l'annonce du verdict, Magda Fischa, toute de noir vêtue, mère de Pavlos, le rappeur assassiné par un cadre de la nébuleuse d'Aube Dorée qui a avoué, est sortie de la salle d'audience, les bras levés, hurler sa rage, sa satisfaction de voir l'assassin de son fils condamné, elle qui ces dernières années a unifié le mouvement antifasciste grec autour de sa douleur et de sa détermination à faire condamner pas seulement l'assassin direct, mais aussi et surtout ceux qui ont commandité ce crime. Les gens applaudissent, l'émotion est intense. Dehors, la nouvelle est retransmise par mégaphone. La foule, 30 000 personnes, exulte, des cocktails Molotov partent, puis des gaz lacrymogènes, mais personne n'y prête attention. Pour Thanasis Kabayanis, avocat de la partie civile, ce verdict est historique à plus d'un titre.
La décision d'aujourd'hui est historique. Le tribunal a jugé Aube Dorée organisation criminelle. Il a jugé la totalité de son conseil politique comme groupe dirigeant de cette organisation. Cette décision rend justice pour la première fois aux victimes de la violence d'Aube Dorée en Grèce.
Le tribunal va siéger toute la nuit pour déterminer les peines qui vont être appliquées et qui seront de 5 à 10 ans de prison ferme. Sauf pour l'assassin de Pavlos Fissas, qui lui va être condamné à perpétuité.
Angélique Coronis à Athènes pour France Culture. Les combats durent depuis maintenant 11 jours au Haut-Karabakh et la moitié de la population de ce territoire séparatiste peuplé d'Arméniens aurait déjà été déplacée. Les autorités indépendantistes accusent l'Azerbaïdjan de pilonner aveuglément Stepanakert, leur capitale, forçant la majorité des quelques 50 000 habitants à partir et les autres à se terrer dans des caves. Aucun signe d'apaisement donc, malgré les appels au calme. L'Union européenne redoute même une internationalisation du conflit, Bertrand Galichet.
Oui, le risque d'internationalisation du conflit a été confirmé cet après-midi à l'Assemblée nationale par le ministre français des Affaires étrangères qui dénonce l'implication militaire de la Turquie. La France, par la voix d'Emmanuel Macron, s'était déjà inquiétée du déploiement au Nagorno-Karabakh de Syriens appartenant à des groupes djihadistes ayant transité par le territoire turc. De fait, Ankara, sans se prononcer sur une éventuelle implication armée, revendique son soutien inconditionnel à l'Azerbaïdjan jusqu'à la reconquête totale de l'enclave arménienne chrétienne. Outre la Turquie, deux autres acteurs régionaux pèsent dans le conflit. D'abord, la Russie qui entretient des relations avec les deux belligérants et leur fournit des armes, mais politiquement et culturellement se trouve plus proche de l'Arménie. Ce matin, à la télévision russe, Vladimir Poutine a pour la première fois publiquement appelé à un cessez-le-feu en demandant aux deux camps de mettre un terme à cette tragédie. Et puis, l'Iran chiite, également lié à chacun des deux camps, hausse le ton à son tour. Le président iranien Rouhani assure que son pays ne tolérera pas la présence de terroristes près de sa frontière nord. Allusion là aussi à la présence de djihadistes sunnites venus de Syrie. D'où les craintes exprimées aujourd'hui par le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell, qui veut empêcher les ingérences étrangères. Déclaration faite au moment où 2000 manifestants de la communauté arménienne étaient rassemblés à Bruxelles pour s'insurger contre l'inaction de l'Europe.
Bertrand Galichet. Pas question de se laisser abattre par un virus. Depuis qu'il est sorti de l'hôpital lundi soir, le président américain Donald Trump affirme qu'il se sent en pleine forme et communique à tout va pour montrer qu'il est au travail et qu'il a facilement surmonté cet épisode Covid. Ce qui vient quelque peu gripper cette offensive médiatique, Grégory Phillips, c'est que la Maison-Blanche est devenue un foyer de contamination. C'est même le plus gros cluster de Washington.
Oui, la liste des personnels ou des conseillers de la Maison-Blanche testés positifs au coronavirus ne cesse de s'allonger. Le dernier en date s'appelle Stephen Miller. C'est un très proche du président. Il écrit notamment ses discours. Mais dans cette liste, on compte désormais une vingtaine de personnes. Le président, la première dame, la porte-parole, Kelly McEnany, le directeur de la campagne électorale, du personnel aussi de la Maison-Blanche, le valet du président et au moins trois journalistes qui couvrent le quotidien de la résidence présidentielle. En quelques jours, la Maison-Blanche est devenue un foyer de contamination important. Le chef de cabinet Mark Meadows assure ce matin que désormais sont mises en place des règles de distanciation physique, mais dans un bâtiment ancien et au couloir étroit. Une partie du personnel est en télétravail. On nous décrit une Maison Blanche fantomatique, quasi déserte, alors que les services du président préparent un retour de Donald Trump dans le bureau ovale, peut-être pour les prochaines heures. Et puis, d'autres lieux de pouvoir sont également frappés par le virus. Au Pentagone, le chef d'état-major, le général Mark Milley, est à l'isolement, cas cas contact. Un amiral numéro 2 de l'unité des gardes-côtes a été contrôlé positif avant-hier. D'autres hauts gradés sont en quatorzaine. Et au milieu de ce chaos, vous avez un président, Donald Trump, dont l'état de nervosité se mesure peut-être au nombre de ses tweets, plus d'une cinquantaine ce matin, dont un pour traiter Joe Biden de cinglé. On est dans une situation inédite, assez folle, celle d'un pouvoir américain totalement chamboulé par le coronavirus, et ce, à 27 jours de la présidentielle.
Et la campagne se poursuit avec ce soir un débat à Salt Lake City entre le vice-président Mike Pence et la colistière de Joe Biden, Kamala Harris. Des parois en plexiglas sépareront les deux candidats. La journée de jeudi s'annonce très nuageuse, humide et venteuse sur le nord et le nord-est de la France, temps plus calme sur le reste du pays. Il fera entre 10 et 16 degrés le matin, 15 à 20 degrés l'après-midi sur la moitié nord, 18 à 25 sur la moitié sud. Ce journal a été préparé avec Brice Garcia.